enfin.
Je pense qu'on est quand même assez privilégiés.
Bonjour, Daniel Mermet et son équipe. C'est Claude, depuis l'Allemagne, qui vous écoute très souvent. Nous sommes vendredi 21. Je viens d'écouter votre émission, comme souvent. Aujourd'hui, consacrée à ces gens de Neuilly. Alors, écoutez, ça, c'est extraordinaire. On n'a plus nos clochards. C'est triste de dire cela, mais c'est vrai, dit la dame, en mangeant des gambas aux trois champignons. Alors, ces pauvres de Neuilly, eh bien, dis donc, ils n'ont même plus leurs clochards. Quelle tristesse. On va devoir les plaindre. À bientôt.
Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, je travaille à Neuilly de temps en temps, hein, pas tout le temps, parce que je suis à la retraite. Et je travaille dans un immeuble de la rue Charles Lafitte. C'est un immeuble somptueux. Il y a des chambres de bonne, c'est des vrais taudis. Il n'y a même pas de fenêtres. Les fenêtres, c'est un vasistas au plafond. Tout ce qui est en haut, les cabinets, le parquet. Alors, il y a du tapis rouge hein, jusqu'à ce qu'il faut. Et puis après, dans les chambres de bonne, au 21e siècle, c'est des vrais taudis. Il y a un cabinet pour 10 personnes. Ça me choque énormément. Comment au 20e siècle on peut laisser... Alors, ils ont des gens de maison et qui vivent là, mais comment peuvent-ils respirer? Puisque moi, mon bureau, c'est dans une chambre de bonne. C'est que mon bureau. Hein. Ça fait moi, j'ouvre la porte pour avoir de l'air. Hein. Mais comment peuvent avoir de l'air les gens qui vivent là, qui sont enfermés? Comment ils peuvent faire leur toilette? Puisque c'est très petit.
Bonjour, moi par rapport à l'émission de vendredi, je voudrais savoir si ce serait pas possible qu'on se groupe pour s'acheter un riche. Comme ça, comme eux ils ont des pauvres, nous on aurait nos riches, ça serait bien. On pourrait faire des repas et on pourrait se le prêter et tout ça. Hein. Salut.
Oui, bonjour Daniel, c'est Hubert Frédéric Damien. Écoute, j'ai été absolument subjugué par cette émission et cette dame-là qui me parlait avec beaucoup d'émotion de ces pauvres. Et j'aimerais savoir comment fait-on pour avoir ses propres pauvres, c'est-à-dire en être propriétaire, si tu vois ce que je veux dire, Daniel. Ici, à Amiens, nous avons nos pauvres, mais ils n'appartiennent à personne. Tandis que cette dame de Neuilly me semble terriblement sympathique et elle semble savoir comment s'approprier des pauvres, c'est-à-dire en être totalement propriétaire à 100%. Merci beaucoup, Daniel. C'était donc Hubert Frédéric Damien. Et j'espère que tu vas repasser ce reportage absolument délicieux sur les pauvres de Neuilly en boucle.
Ici, c'est Gaston du Loir-et-Cher. J'écoute votre émission sur les logements sociaux éventuels à Neuilly. J'habite de temps en temps à Paris, enfin tout au moins à Issy-les-Moulineaux, dans un très joli immeuble HLM qui est occupé par mon fils. Et je vois souvent une note de service indiquant il est rappelé aux locataires de ne pas faire leurs besoins dans les escaliers. Alors on s'étonne pourquoi aussi la clientèle des logements sociaux. Et c'est à vous de conclure.
Bonjour messieurs. Je n'habite pas Neuilly, je suis pas un bourgeois, ni de la grande bourgeoisie, mais je suis fatigué par Mermet, qui avec l'argent du contribuable dont je suis, se fait des voyages à l'étranger pour critiquer la France, ce qui fait pour lui. Au revoir, merci.
Bonjour, c'est Rémi de Saint-Denis. Je viens d'écouter l'émission sur Neuilly, fort intéressante d'ailleurs, et... J'ai quand même noté un petit oubli de ta part, Daniel. Tu n'as pas donné l'adresse du repère des amis là-bas, si j'y suis, de Neuilly. Il doit bien y en avoir un, c'est certain. Ces gens-là doivent s'être organisés. À bientôt.
Ben oui, c'est vrai, on n'a pas encore de repère des amis de là-bas, si j'y suis, à Neuilly. Mais ça ne saurait tarder, étant donné tous les efforts qu'on fait pour justement, cher monsieur, économiser les frais de mission, puisque Neuilly, c'est juste à côté d'ici, à côté de la maison de la radio. Donc on peut pas dire que, en matière de frais de mission, ça nous est coûté bien cher, c'est coûté très cher à la collectivité. Alors voilà, pas mal ces répondeurs aujourd'hui. Hein. On apprend que la clientèle des logements sociaux fait ses besoins dans les escaliers. Mais de façon générale, ben voilà, c'est une première partie de reportage vendredi qui semble vous intéresser. C'est vrai que on nous fait le reproche. Il y a quand même un peu trop de torchons et pas assez de serviettes dans cette émission, trop de nouilles et pas assez de caviar, et ben voilà pourquoi aujourd'hui encore nous restons à Neuilly, à Sarcolande, avec Guy Ventil, notre reporter, et Michel et Pinson Charlot, qui nos deux sociologues, qui nous guident dans cette dans ce ghetto, le ghetto du Gotha. Michel Pinson et Monique Pinson Charlot, et puis on retrouvera Madame Dumont qui vous a enchanté déjà vendredi, mais là on va la retrouver, on va continuer cette conversation très agréable, mais avec des côtés aussi très très amusants.
Voilà, je viens de déjeuner avec ma mère suite à ton émission, tu sais, sur le... Putain, excusez, pardon, parce que... L'émission... Je vais pas y arriver, je crois. Je rappelle.
Voilà, donc mon père est né en 38 et a fait la guerre d'Algérie. Et en 62, il était gardien de la paix à Paris. J'ai parlé de cette émission, on sait qui est passé. Bon, j'ai réagi un peu tard, c'est vrai, mais j'avais pas vu ma mère entre-temps, qui elle est toujours vivante. Mon père est mort il y a un bail de ça, en 88. Et bah, en fait, voilà, elle m'a expliqué que apparemment, il aurait... Il aurait bien contribué voilà, à balancer des petits gars dans la Seine ou aller la thé pour rien. Voilà. Voilà, c'était juste comme ça. Moi, j'ai 32 ans. Voilà. Et y a rien d'autre à dire. Ciao.
Le rallye Neuilly.
Autrefois, nous avions nos clochards. Nous avions Alfred, qui habitait, je ne sais pas où, enfin, je ne sais pas très bien où, mais enfin, qui était aimé, habillé, nourri par les gens du quartier, qui promenait sa poussette. C'était un personnage. Après, on en a eu un autre qui, malheureusement, a été un jour... ses copains l'ont arrosé d'essence et ont mis le feu. Voilà. Bon, allez, on va s'asseoir.
Oui.
Karen, allez, en route.
Ah, dans le salon, il y a la musique qui passe doucement. On s'installe. Il y a des tableaux de chasse à cours.
Oui, je chasse à cours, voilà.
Vous faites quoi dans la chasse à cours, vous?
Bah, je suis bouton à l'équipage de Bonnal à Rambouillet. Donc, je suis. Donc, nous sommes dans rouge. Et on chasse du 15 septembre au 30 mars.
Chasse à cours et golf.
Chasse à cours, mais c'est très complémentaire. Parce que la chasse à cours, c'est l'hiver et le golf, c'est plutôt l'été.
Et votre golf, c'est où?
Donc, je fais partie d'un petit golf qui est le golf de trousse-chemise à l'île de Ré. C'est un petit 9 trous et c'est mon golf d'attache. Vous allez vous
servir, monsieur? Bien sûr. Merci. Le rallye Neuilly.
Enfin, il y a du racket comme partout, il y a de la grogne, il y a tout ce qu'on veut. Hein. Enfin, je pense qu'on est quand même assez privilégiés. Quand Nicolas Sarkozy était là, il se montrait beaucoup, il était là la nuit, il faisait des rondes, etc.
Je veux obtenir des résultats dans des quartiers où la vie est devenue impossible, y compris avec de la technologie pour comprendre ce qui s'y passe.
On a des événements absolument extraordinaires. On a quand même beaucoup aussi dans un autre domaine des acteurs de cinéma. Alors il y a des mariages extraordinaires. On a eu Barclay qui s'est marié 9 fois. On a eu Mimi Mati qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Jenny Hallyday, n'en parlons pas. On a quand même des événements assez drôles.
Mon ami, sais-tu ce que c'est qu'un rallye? Non, eh bien, je veux te l'expliquer en 2 secondes.
C'est pas n'importe quoi, voilà. C'est peut-être une chose qui est dans la continuité du BCBG, voilà. C'est toutes ces banlieues un peu privilégiées. Je pense que les gens ont quand même un semblant de tenue, ouais, c'est ça. Enfin, il y a tout partout, hein, de toute façon. Mais c'est vrai qu'on en voit moins qu'ailleurs. Et puis on a une population qui est arrivée, qui est assez drôle, ce sont les nounous, ça, vous en voyez ça dans les journaux, les nounous ivoiriennes, maliennes, ou je sais pas quoi.
C'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil. Le golf, c'est plutôt l'été.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors on continue à marcher avenue de Madrid, dans le sud du quartier Saint-James. Et là, on va rentrer dans l'avenue du parc Saint-James, qui est une voie privée.
Encore une voie privée.
Donc il y a sans interdit, voie sans issue, voie privée, passage et stationnement interdit aux personnes étrangères à l'avenue. C'est bien rappelé une autre fois et tout est grillagé. Bon,
oui.
Alors.
On rentre, passe la grille.
Et comme le dit volontiers Monique, s'il y a des ghettos dans la région parisienne, c'est des ghettos de riches, c'est-à-dire ce type de ville-là.
Est-ce que c'est revendiqué par vos interlocuteurs, c'est-à-dire par ces mêmes personnes de la haute, de vivre dans un ghetto?
Tout à fait. On a travaillé, le premier travail dans ce milieu, ça a été dans les beaux quartiers. On s'est aperçu qu'il y avait des lieux à l'intérieur des beaux quartiers qui garantissaient un entre-soi absolu. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de ses semblables et un évitement des autres catégories sociales lorsqu'il ne s'agit pas de relations professionnelles ou de services.
Parce que, en fait, bien sûr, il y a toute une éducation qui favorise l'amour de son semblable, mais cet amour de son semblable est très important pour ce milieu parce que du fait qu'il y a beaucoup de patrimoine, beaucoup de richesses, il faut transmettre cette richesse. C'est ça le critère qui est important, c'est de créer une dynastie familiale, une lignée. Au fond, dans notre France qui valorise l'innovation et la compétitivité et la jeunesse, paradoxalement, le critère de l'excellence sociale, c'est encore le château et l'ancienneté. Hein. Quand on est sociologue ou journaliste, quand on a dit rentier, on n'a jamais dit un mot aussi méprisant. Ouais. Alors, pas du tout. Ce sont des familles qui aujourd'hui ont des portefeuilles d'action, qui sont dans les affaires, qui peuvent être aussi dans la politique, enfin qui multiplient les points d'ancrage dans la vie sociale. Et je vous rappellerai quand même que Ernest-Antoine Seillard de Laborde, baron de Vindel, a quand même dirigé le MEDEF pendant des années. Or, c'est un héritier de la sidérurgie lorraine converti en une holding financière.
Voilà, cette holding financière qui regroupe des membres de la famille.
Tous les membres de la famille. Donc, on voit bien que les grandes familles sont en phase avec la société. Et c'est un tort que de les décréter sur le déclin. Parce que comme ça, on comprend rien à ce qui se passe dans la société. On croit qu'on est géré et dirigé par des organigrammes abstraits, alors qu'en réalité, ce sont des êtres humains en chair et en os, et ce sont surtout encore des familles. Et ça, c'est important, parce que dans les classes moyennes, et même dans les classes populaires, aujourd'hui, les familles sont décomposées, recomposées. Il y a une survalorisation de l'individu. Éclate-toi, réussis, j'ai rendez-vous avec moi.
C'est l'individu entreprise.
Voilà. Tandis que dans ce milieu, il y a une espèce de collectivisme pratique de tous les instants qui assure une sorte de solidarité de classe au-delà des différences, des contradictions.
Vous voulez dire qu'à l'opposé de l'individualisme que promouvait par exemple Ernest-Antoine Seillard quand il était à la tête du MEDEF et maintenant il est...
Il le promeut pour les autres, mais pas du tout pour lui. Hein, puisque lui, on l'a dit, c'est une holding familiale, hein, il y a plus de 700 héritiers. Lui-même dirige une organisation patronale, donc c'est du collectif. Enfin, on pourrait multiplier comme ça les exemples d'insertion dans des collectifs, dans des cercles, dans des rallyes, dans des tas de choses. C'est vraiment au top de la société, on est dans la suraffiliation, alors que dans les autres groupes, on est dans la désaffiliation.
Voilà, on continue la balade avec nos deux sociologues, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui sont parmi les rares sociologues à avoir longuement, très longuement, étudié, observé la haute société, la grande bourgeoisie. Et là, on se balade avec eux dans Neuilly, juste à côté d'ici, juste à côté de la maison de la radio. Et ce qui pourrait nous servir de clé à cette balade aujourd'hui, c'est cette vieille formule qui dit « La guerre, c'est ceux qui la font et qui ne se connaissent pas, au profit de ceux qui se connaissent et qui ne la font pas ». Et cette formule pourrait tout à fait s'appliquer, non pas à la guerre aujourd'hui, mais à la guerre économique. La guerre économique, il y a ceux qui se battent les uns contre les autres, c'est ce que vient de dire Monique Pinson-Charlot, ceux qui se battent les uns contre les autres avec des idées de compétition, d'individualisme, de guerre de tous contre tous, au profit de ceux qui ne prennent aucun de ces risques-là alors qu'ils vendent toujours la société du risque, mais pour les autres, et qui se connaissent parfaitement entre eux, le golf. Le golf, c'est plutôt l'été. La chasse à course, c'est plutôt l'hiver. Il y a la messe, mais il y a beaucoup d'autres liens, à commencer évidemment par des liens familiaux qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tente ce monde, cette société à l'art consommé de se mettre à part, de se faire oublier, de ne pas attirer l'attention avec beaucoup de subtilité, un art consommé d'être à part discrètement, c'est le fameux charme discret de la bourgeoisie, en l'occurrence de la grande bourgeoisie, et qui fait que quand on dit le mot ghetto, on pense tout de suite à la banlieue. Quand on dit le mot banlieue, on pense aux banlieues terribles, aux banlieues. Mais non, c'est un ghetto de banlieue. Quand on dit communautarisme, par exemple, on voit à quoi on fait allusion, mais on pense pas que la bonne société, la haute société des beaux quartiers de cette grande bourgeoisie, vit selon des règles tout à fait communautaires, en tout cas de ce collectivisme pratique qui par la solidarité de classe rappelle, s'il en était besoin, que la lutte des classes continue. C'est pas parce qu'il n'y en a qu'une seule qui reste organisée que le combat s'est épuisé. Et nous allons à Sarcolande, à Neuilly, dans un endroit qui a déjà été dépeint par Zola, Balzac et d'autres, c'est-à-dire le monde des rentiers conservateurs qui vivent bien et qui nous attendent souriants.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier m'a paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin ni un euro marché. Auteuil Neuilly Passy, tel est notre ghetto.
Hey mec, mon nom à moi c'est Hubert Valéry Patrick Stanislas Duc de Montmorency. À 5 ans et demi j'avais déjà ma Ferrari. Je pouvais pas la conduire, bien sûr j'étais trop petit.
As-tu saisi mon pote, notre envie de révolte?
J'ai envie de crier zut, flûte, crotte.
Chier.
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto.
Mec, nous sommes tous les produits d'une société économique dépendante des fluctuations boursières qui déstabilisent le marché.
Oui, mec.
Et pour sortir de ce carcan éducatif capitaliste, il faut savoir dire non, 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 mec.
Salut, tu vas bien?
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto.
Salut.
Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir.
On va peut-être avaler ça. Oui.
C'est quoi, c'est là, délicieux?
C'est des gambas aux trois champignons avec du riz. Voilà. C'est tout.
C'est tout.
Voilà.
Bon appétit. Où est-ce qu'on se retrouve en fait?
À Neuilly. À la messe le dimanche. Hein? Oui, à la sortie des écoles. Et puis, il y a quelques bistrots quand ces dames ont déposé leurs enfants. Le café du parc, boulevard d'Argenson.
Je suis allée à la messe à Neuilly, là, rue de l'église Saint-Jean-Baptiste.
Oui, Saint-Jean-Baptiste.
Et vraiment de voir
je me suis salue.
Toutes ces personnes avec les enfants, vraiment bien, bien habillées, bien propres, très BCBG.
Mais donc, c'est vrai que les gens sont encore très traditionnels, oui, c'est
bien
vrai.
Bien élevés. Des enfants de 8, 10, 11 ans qui sont très dissipés d'habitude, là, ils n'ont pas bougé. Pas fait tomber les micelles.
Mais grâce aux écoles que nous avons, parce qu'il y a quand même des écoles qui sont quand même très, très bien, hein. Les gens se battent pour venir ici. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord les impôts qui ne sont pas très chers, toujours restés en dessous de la moyenne. Et alors les gens sont venus d'une part pour ça et d'autre part parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles prestigieuses et de bonne renommée, et que ce soit Saint-Dominique, Sainte-Marie, enfin tout ça. Mais il y a quand même une qualité d'éducation et c'est pour ça que quand tu les retrouves à la messe, enfin, ils se tiennent correctement, quoi. Ils sont bien habillés, ils sont propres, ils sont tenus, quoi, voilà. Ça, c'est un des charmes de Neuilly, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour ça, ça c'est vrai.
Oui, et puis c'est aussi que vos enfants seront élevés parmi des enfants de personnalité ou alors des enfants de bonne famille.
Des enfants de bonne famille, voilà, c'est plutôt ça. Et je crois qu'à Sainte-Marie, il y a encore, et à Sainte-Croix, il y a jusqu'à une certaine classe, on doit être correctement habillé. Les chaussures sans lacets ne sont pas admises, les baskets, il n'en est pas question. Il faut qu'ils soient, les jeans, c'est autorisé, on ne voit pas la peau entre le chandail et le truc. Il y a quand même un minimum. Je crois que c'est quand même nécessaire pour l'éducation des enfants. Enfin, je sais pas, quand on... Enfin, on essaye de limiter les dégâts. Enfin, on n'a pas de dreadlocks. Enfin, j'en vois pas beaucoup.
Je vous avoue, j'en ai pas vu beaucoup à Neuilly.
Non, heureusement.
De look Kaira non plus.
Non. Il y a un truc amusant, c'était cet été, au mois de juin, quand ils ont passé leur bac. Je ne sais pas pourquoi, on en voit toujours les enfants de Neuilly ou d'ailleurs, loin. Moi, j'habitais Neuilly, je suis allée passer mon bac rue du Rocher, près de la gare Saint-Lazare. Enfin, non, mais c'est un quartier très bien aussi, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais à Neuilly, enfin, les enfants qui ont passé le bac à Neuilly, c'était des enfants, je ne sais pas d'où, mais pas d'ici.
De Sarthe.
Ou de Saint-Denis, ou de, je ne sais pas quoi, de Nanterre, peut-être. De Nanterre. Ouais. Je veux dire qu'ils n'avaient pas le même look. C'est curieux, hein.
Ils étaient comment ?
Bah, je peux pas vous dire qu'ils étaient un petit peu colorés, mais beaucoup. Et ils étaient pas habillés comme les enfants de Neuilly, c'est tout. Mais ils étaient sûrement très gentils et très, mais les gens étaient quand même un peu interloqués. C'était pas l'habitude des gens, des enfants qu'on voit ici. On voyait la différence. Quand on va au jardin d'acclimatation, par exemple, qui est à Bois de Boulogne, ce sont les enfants de Neuilly le matin et l'après-midi, il y a tous les gardes de banlieue qui débarquent. C'est... Mais tant mieux, parce que c'est un endroit magique. Enfin, c'est vrai, on a la chance d'avoir ça. La seule chose, c'est que c'est extrêmement cher. Alors, je ne sais pas comment les gens font, parce que... Enfin, quand ils arrivent en quart de banlieue, je pense qu'on leur fait des tarifs préférentiels, mais sinon, c'est hors de prix. Bon, voilà. Allez-y, servez-vous.
Le petit plat de fromage qu'il y a là. Moi, j'ai fait un effort. Après avoir vu votre livre, vous racontiez un journaliste en jean basket qui se faisait répondre des platitudes parce qu'il était pas du tout dans le même code vestimentaire que ses interlocuteurs. J'ai mis une veste.
Oui, vous êtes parfait. Tandis qu'alors moi, aujourd'hui, comme je pensais qu'on allait se contenter de faire des commentaires depuis le trottoir, je me suis mise avec un pantalon rouge et des baskets noires. Donc, je suis pas du tout comme il faut. Michel, déjà, est beaucoup mieux. Il a mis une veste et des chaussures de cuir.
Il y a quand même des looks. Typique.
Avec le serre-tête et les collants bleu marine.
Il y a le personnel de service qui se promène un peu. Et puis il y a des gens très bien. Comme ils sont un peu chez eux, c'est un peu la campagne Neuilly d'une certaine façon, au moins par ici. Tant qu'ils sont en tenue un peu décontractée avec des jeans quelquefois, mais en regardant bien, on s'aperçoit que ce sont des jeans un peu de marque avec des mocassins très élégants. Enfin,
comme cette dame qui est devant nous qui est en total look. C'est-à-dire que du sac aux mèches de la coiffure, en passant par le blouson, le pantalon et les chaussures, qui sont des bottines en daim apparemment.
Ouais. Mais dans des beiges tout à fait.
Très grèche beige.
Voilà, chaleureux. Ils sont chauds.
Respect, calme et détente, on est devant un parc. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de tags non plus sur les murs.
L'absence de tags est remarquable, d'autant plus qu'il y a un grand lycée juste à côté.
Ce grand mur blanc qui clôt une très belle propriété sur notre gauche serait évidemment tagué s'il était dans le 9-3. Donc là, on voit ce qu'on appelle la folie Saint-James, c'est-à-dire ce petit palais rose un peu paladien de style toscan italien.
Ça, avec des colonnades en plus.
Voilà.
un lycée, le lycée Saint-James, qui se trouve donc en concurrence avec le lycée Pasteur, qui est de l'autre côté de l'avenue du Général de Gaulle. Et finalement, je me souviens que la préférence allait au lycée Pasteur par rapport au lycée Saint-James, qui était jugé un peu trop nouveau riche. Enfin, moi, je mets tout ça entre guillemets. Hein. Et donc, je vous propose d'essayer d'y pénétrer, parce que cette folie a été classée en 1922. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a un très, très bel escalier. Il y a un vestibule avec des fresques superbes.
Voilà, Neuilly, un lycée à Neuilly. C'est là que la haute bourgeoisie se reproduit, se conserve, conservée, je maintiendrai. On se demandait tout à l'heure d'où venait cette devise, ça nous dit quelque chose. Je maintiendrai, il faut que rien ne change, ou parfois faire mine de changer pour que rien ne change. C'est le système des conservateurs, c'est le système de la rente. Mais alors, la rente pas seulement financière, pas seulement patrimoniale, pas seulement des salaires très élevés que dont les uns et les autres peuvent jouir, mais aussi d'autres, que Bourdieu appelle le capital. Les capitaux symboliques qui sont de toute nature, du nom à l'habitat, à toutes sortes de filiations, de culture aussi. Et il faut bien que cette culture se transmette. Faut pas penser que Neuilly ou la haute bourgeoisie, c'est seulement des questions d'argent, des questions de richesse financière. C'est aussi un patrimoine culturel qui se transmet.
Donc, je m'appelle Madeleine Lemoulec. J'étais proviseur dans une ZEP avant, donc je peux faire la différence. La vie est certainement assez facile ici.
Vous étiez où en ZEP?
À Vigneux-sur-Seine, dans l'Essonne, ouais. Au pied de grandes tours.
Des populations
très défavorisés, hein, je sais pas, 50% de catégories défavorisées. Ici, on doit avoir peut-être 10% de catégories défavorisées. Il y en a tout de même, il y en a.
Pourquoi ça fait un portrait des élèves par rapport à la ZEP et ici?
Je pense qu'en ZEP, il arrivait quelquefois que les relations avec les familles soient orageuses. Ça pouvait arriver, qu'il y ait des démonstrations de force. Je me disais, je vais peut-être avoir des petits problèmes physiques avec quelqu'un qui était vraiment très très en colère. Ici, au fond, les relations de force existent aussi, de démonstration de force existent aussi, mais d'une autre manière.
C'est-à-dire?
On fait savoir qu'on a telle ou telle relation et qu'on pourrait faire intervenir un tel ou un tel.
À l'inspection, au ministère?
Bien sûr, oui, au ministère, oui. Bah, ici, il y a quand même l'ombre de Nicolas Sarkozy un petit peu partout, donc bien des familles laissent entendre que, ma foi, elles le connaissent parfaitement et qu'il s'agit de Nicolas, évidemment, on ne dira pas Monsieur Sarkozy.
Ah bon?
Mais bon. Je dis, ça, au fond, c'est un peu la même chose. C'est la démonstration de sa puissance d'une autre manière.
C'est ça, le pouvoir symbolique aussi? De pouvoir invoquer des noms comme ça?
Bien sûr. Le fait de pouvoir invoquer quelqu'un qui occupe une position importante suffit à créer une espèce de violence symbolique, de violence sociale. Mmh. Et c'est bien que vous parliez, je trouve.
Je veux dire que quand on est un chef d'établissement avec une certaine expérience, un certain âge, on ne se laisse impressionner ni par l'un ni par l'autre. Bah, par le gros bras, on se dit qu'il n'osera pas taper sur une vieille dame de toute façon. Puis s'il le fait, il aura des ennuis sérieusement. Hein. Et puis l'autre, ma foi, on lui explique qu'on fait au mieux son travail, tel que la République nous en fixe les directives, et puis que voilà, hein, c'est tout. Justement, peut-être, il ne s'agirait pas que leur fortune supposée ou les relations de leurs parents fassent d'eux des gens incapables de s'adapter à une vie en société. Ce serait dommage. Hein.
Je voulais faire une petite remarque sur justement la cour de récréation. Donc vous prenez les enfants sont donc dans la cour de récréation. Et je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi pour dire que le niveau sonore est quand même très, très faible, très bas par rapport à d'autres cours de récréation. Et moi, ça m'a toujours frappé dans ces enquêtes à Neuilly de voir des enfants qui gueulent pas.
C'est comme disait le proviseur, quoi. Ils sont très calmes, très polis, très bien élevés.
C'est moins, moins dépenaillé qu'ailleurs.
Discrétion, luxe, calme. une balade dans Neuilly, charmante commune à côté de Paris. Alors on oscille aujourd'hui entre nos deux sociologues, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, et Madame Dumont, qui a eu l'amabilité de nous recevoir et de nous parler très sincèrement, à cœur ouvert, de ce qu'est aujourd'hui la vie dans cette banlieue parisienne, de ce ghetto du Gotha.
Le vieux Neuilly, ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps, des bourgeois, comme on peut dire, âgés ou avec des familles nombreuses.
Bon. Ou des familles d'aristocratie aussi.
Oui, mais enfin, ils sont plutôt de l'autre côté, dans des propriétés plus grandes, ou alors dans de grands appartements, parce qu'il y a très beaux immeubles haussmanniens, avenue de Beretti. Enfin, c'est toujours une bourgeoisie aisée, qui a de la chance. Et alors, les vieux hôtels particuliers, il y en a encore, donc à Neuilly, dans le vieux Neuilly. Il n'y en a plus beaucoup, mais il faut aller les chercher dans les petites rues, derrière des immeubles.
Comme ici, en fait.
Et il reste les maisons à l'intérieur. Il y en a beaucoup rue de Chézy, il y en a rue des Huissiers, il y en a quelques-uns.
C'est ce que vous appelez le ghetto, vous?
Oui, enfin, ce qu'on appelle, en riant, le ghetto, ce qui était. Non, c'est, le ghetto est encore plus loin. Le ghetto est auprès du PPP. Je ne sais pas si vous connaissez le PPP. Non. Le putain de pont de puteau. Oui. Parce qu'autrefois, il était très étroit et on mettait une heure pour passer le PPP. Donc, il est resté comme ça. Maintenant, il est très beau. Ça circule très bien. Il n'y a pas de problème.
Moi aussi. Vous allez vous resservir parce que vous êtes tout froid.
Bien sûr.
Non, moi,
c'est bon.
Voilà, et on retrouve dans la rue, à l'extérieur, sur le terrain, nos sociologues.
Pour analyser la distribution spatiale des familles de la haute société, où est-ce qu'elles habitent, parce que bon, ils sont pas recensés comme tels par l'INSEE, il faut trouver un indicateur.
Comment ça? Parce que normalement, l'INSEE, il identifie très clairement...
Les cadres supérieurs, les patrons de l'industrie et du commerce.
Mais... Les pauvres, les très pauvres.
Oui, mais il n'y a pas de haut de gamme. La haute société n'est pas isolée, parce que ici, dans cette avenue, par exemple, vous avez des gens avec des terres dans l'abri ou dans la bosse, de grandes propriétés, et qui se déclarent agriculteurs, d'autres qui sont généraux, d'autres qui sont membres de l'institut et écrivains.
Évêques.
Donc, en fait, l'appartenance à ce milieu très privilégié ne se voit pas dans les statistiques de l'INSEE. C'est impossible à déterminer. C'est-à-dire... Parce qu'il n'y a pas de profession qui permette de les situer. Ce n'est pas parce que vous êtes cadre supérieur ayant fait polytechnique que vous serez membre de la grande bourgeoisie. Il faut avoir du patrimoine, par exemple. C'est l'un des critères, mais avoir une partie de ses revenus importante qui vient du patrimoine, le salaire éventuel étant un complément. Mais pas l'essentiel des revenus. Il y a ça, et puis il y a le fait d'appartenir à une vieille famille connue, reconnue, inscrite au bottin mondain.
Le bottin mondain, c'est quoi?
C'est un annuaire où il faut avoir la caution de deux personnes déjà dans le bottin mondain pour être parrainé, donc pour pouvoir y être inscrit. Et cet annuaire de la bonne société est dans les maisons qui sont autour de nous. Dans presque toutes les maisons, le bottin mondain est au salon, près du téléphone.
Pourquoi?
Parce que c'est l'annuaire où on trouve les gens utiles et qui vous correspondent.
C'est vraiment bizarre parce que ce sont des gens qui sont très attentifs à être sur les listes rouges, noires, oranges. Et puis, en fait, tout un chacun peut savoir toutes leurs adresses ici dans la Villa Saint-James, mais aussi dans leur château, dans leurs différentes résidences, jusqu'au mobile de leurs enfants à partir de l'âge de 13 ans. Grâce au bottin mondain. Donc c'est un paradoxe qui nous a toujours beaucoup étonné.
Ceux qui sont très discrets justement sur témoigner de leur statut, là au contraire ils l'étalent et ils le détaillent.
Oui, le détail parce que justement ça va servir à faire que le milieu va fonctionner. En fait, nos travaux montrent que les gens de la haute société cumulent différentes formes de richesses et qu'on peut pas seulement les caractériser par des niveaux de fortune qui avaient une dispersion absolument incroyable entre, par exemple, les plus pauvres de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, c'est-à-dire les 100 premiers et les 100 au plus haut, il y a une dispersion de 184 fois. Donc, que ce soit les fortunes professionnelles, le patrimoine de jouissance, chaque fois, on a une dispersion qui montre qu'on est sur une autre planète. Donc, la richesse économique est certes une condition nécessaire pour rentrer dans les ghettos du Gotha, mais pas une condition suffisante, puisqu'il faut cumuler d'autres formes de richesse, notamment la richesse sociale, c'est-à-dire avoir beaucoup de relations sociales,
On ne peut pas rester longtemps riche tout seul. De la richesse culturelle, le monde des grandes fortunes, c'est le monde des collectionneurs. Et puis, ce qu'on appelle avec Michel sur les brisées de Pierre Bourdieu, la richesse symbolique. C'est-à-dire que, au fond, le patronyme familial, si vous dites « je vous présente Jean Dormesson », tout de suite, ce nom ou Guy de Rothschild suffit à condenser, à signifier, à symboliser toutes les autres formes de richesse.
Alors encore une fois, là, on est cerné de voitures avec des plaques d'immatriculation du corps diplomatique. C'est donc qu'il y a des étrangers quand même qui habitent ici.
Ah oui,
mais
alors...
c'est pas des populations immigrées.
Vous avez parlé d'étrangers, justement, intéressant au niveau du vocabulaire. Hein, on aurait été à la Goutte d'Or, vous auriez dit des immigrés. Tandis qu'ici, on parle des étrangers. Alors, c'est très intéressant parce que les statistiques montrent que il y a autant d'étrangers, par exemple, dans le 8e arrondissement que dans le 18e. Mais évidemment, ce ne sont pas les mêmes professions, les mêmes positions sociales, les mêmes pays.
Oui, ici, c'est des immigrés diplomates, comme une grosse BM là qui passe devant nous, avec des diplomates probablement africains.
Il y a deux catégories d'étrangers à Neuilly et dans le 8e arrondissement. Des gens de haut niveau social, donc le corps diplomatique, mais aussi des cadres de sociétés internationales d'un très haut niveau social aussi, et du personnel de service. Les personnels de service sont très nombreux à Neuilly. Je crois qu'ils représentent entre 15 et 20% de la population active de Neuilly, ce qui est énorme par rapport à d'autres quartiers.
C'est-à-dire les petites mains, les bonnes, les cuisinières, les portiers, les chauffeurs.
Voilà, tout ce personnel qui aujourd'hui est de moins en moins français. Pour des raisons du salaire, de rapport social aussi. Être domestique, c'est quelque chose qui n'est plus très très facilement admis par les gens d'origine française, disons.
Ouais. Et puis c'est moins gênant de dire on va demander à la Philippine qu'elle est la bonne. Quoi.
Le rallye Neuilly.
Et puis on a une population qui est arrivée, qui est assez drôle, ce sont les nounous, ça, vous en voyez ça dans les journaux, les nounous ivoiriennes, maliennes, ou je sais pas quoi, qui sont là, indispensables, et très agréables et très gentils, mais qui s'occupent des enfants. Alors, dans les squares, vous avez une population de petits blonds aux yeux bleus, avec... c'est très très drôle. Il y a un petit square, notamment derrière la mairie, où si vous y allez l'après-midi, c'est fascinant. J'y suis encore passée hier en prenant mes chiens autour de ce square. Il y avait des nounous très colorés. Mais c'est sympathique, je trouve, parce qu'en général, ces gens sont gays, gentils. Et ça amène un peu de couleur locale et puis ça change un peu. On voit autre chose. On voit quelquefois des femmes en boubou, vous savez. C'est joli, c'est merveilleux.
Parce que voilà, il y a des critiques. Neuilly, c'est le règne de l'entre-soi.
Peut-être un petit peu, oui, pourquoi pas. Enfin, si l'entre-soi est sympathique. Mais c'est quand même ouvert, je vous dis, il y a quand même des portes de sortie avec tous ces jeunes, là, de la pub, dans le truc de la Jatte, un peu de télévision aussi, des laboratoires. Vous savez, dans l'autre partie de l'île de la Jatte, il y a les laboratoires Roche, il y a des laboratoires avec des jeunes chercheurs, avec des gens, non. Il y a une population jeune, relativement. Il y a Michael Page qui est à côté, avec des jeunes cadres. Oh, c'est une boîte de recrutement. Avant, nous avions Arthur Andersen. Malheureusement, ça n'existe plus. Mais on a Deloitte et Touche aussi. On voit des jeunes qui investissent tous les petits restaurants du coin, tous costumes, cravates, ordinateurs à la main. C'est une autre population, mais de gens sympathiques.
Voilà, ils ont beau pas être dans le même monde, ils sont dans les mêmes tranches de revenus, en tout cas.
Oh, revenus, j'en sais rien, mais enfin, ils sont des gens bien élevés, qui ont de l'allure, qui sont bien élevés, mais c'est pas n'importe quoi, voilà. C'est peut-être une chose qui est dans la continuité du BCBG, voilà.
C'est vrai ce qu'elle dit, Madame Dumont. Il n'y a pas que la haute société de l'entre-soi. Il y a aussi, bon, ces gens de couleur qui apportent de la couleur locale. Et puis ces jeunes de la pub, de la télé, des ingénieurs qui travaillent dans des laboratoires, etc. Et puis il y a aussi d'autres genres de population. Par exemple, prenez ce facteur qui croirait qu'il s'agit d'un communiste révolutionnaire.
Bonjour madame.
Bonjour. Eh bien, Monsieur Besancelot, il m'a mis mon courrier. Merci.
Bon. Vous allez faire votre marché, là?
Oui. Oui.
Alors, parlez-moi du quartier.
Ben, vous savez, je peux pas beaucoup vous en parler parce que ça fait que quelques mois que je suis là.
Ah bon, vous êtes une...
Je viens de Paris, troisième.
Vous avez passé le périph, ça y est?
C'est parce qu'avant, j'avais un magasin à Neuilly, luminaire. Ça s'appelait E-Côté.
Vous êtes venu près de votre clientèle.
Voilà. Et puis, bon, bah, je suis bien contente d'être là, parce que c'est calme, c'est beaucoup moins bruyant que la République. Hein. Mmh. Beaucoup moins de manifs et beaucoup moins de...
Ah, c'est vrai que les manifs ici, c'est pas énorme. Il y en a pas souvent.
Oui, dans le quartier, oui.
Remarquez qu'il y a eu une manif il y a quelques jours des communistes.
Ah, oui. Bon.
Ça y est. Merci.
Il y a aussi à Neuilly, ça c'est ce que j'ai découvert, parce que moi je connaissais pas du tout Neuilly en fait. Moi je le connaissais à travers le Valois dont on parlait, qui était un peu l'opposé. C'est pour ça que moi ma grand-mère par exemple m'a toujours, et mon arrière-grand-mère m'ont toujours parlé des riches et des pauvres à travers le Valois et Neuilly, parce que le Valois jusqu'au début des années 80 c'était une ville ouvrière, communiste, par Fégeance dont on parlait, qui était chauffeur de taxi. Et donc je connaissais très très peu, et en arrivant ici en fait on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent à Neuilly mais qui y vivent pas. Donc t'as pas mal d'entreprises, de sièges sociaux, ce qui fait que bon, on croise des gens, la plupart des gens ils vivent même pas quoi.
Et ceux qui vivent, ils vivent entre eux. Ce que disaient Monique et Michel Pinson, c'est le ghetto du Gotha.
Ouais, mais visiblement ça fait, enfin, y a un aspect village, mais même à l'œil nu ça se voit, on a un aspect village, c'est-à-dire que les gens se connaissent, ont probablement une activité, mais vraiment très fermée, ça fait vraiment ghetto, mais pour riches. Alors je sais que moi, des fois, je me fais interpeller, il paraît qu'il ne faut pas dire ça, parce que les gens sont sensibles à ce qu'on dit.
Et spécialement ici.
Spécialement ici. C'est l'aspect ghetto pour riches, quoi.
C'était quoi le dernier score qu'a eu Sarkozy quand il était aux législatives ici?
Ici, genre 80%, quoi. Ouais. Ouais, 80%.
Et le référendum sur la Constitution européenne?
Oh bah là, pareil, c'est à base de 75-80% ou quelque chose comme ça, ouais.
Et la présidentielle pour Chirac?
Je dirais 75-80%.
C'est des scores brejneviens, non?
Ah ouais, là, franchement, ouais, ici, là, ils sont tranquilles. Bah, par exemple, après le référendum, il y a eu deux moments de grande solitude. Bonjour. Il y a eu deux grands moments de solitude pour moi. C'était après le mouvement social sur les retraites. J'avais fait un mois de grève. Alors là, j'ai eu le droit à la vraie lutte de classe, mais à l'envers, quoi. Dans le camp des riches, on m'a fait des réflexions qui étaient typiques de gens qui ont conscience de leurs intérêts.
C'est-à-dire
à base de les facteurs au travail, de toute façon, on vous a bien eu, on lâchera pas, on a un gouvernement qui... vraiment le côté un peu versaillais, revanchard, enfin... Ouais, vraiment. Mais pas tout le monde, hein. C'est aussi une partie, j'allais dire, militante, quoi, qui y croit, et puis qui se sent chez elle, et puis qui est plutôt fière de ça. Et puis le deuxième grand moment de solitude, ça a été après le référendum. Alors là, c'était... entre le score, je veux dire le score. Bonjour. Le score ici sur le référendum est inversement proportionnel à celui qu'il y a eu à Gennevilliers, par exemple. Donc c'était va à Gennevilliers.
Ça, c'est pas pour moi, ça c'est pour faire suivre. Et ça, c'est Sami Sader qui est parti. Alors tu l'as fait, je sais pas qu'est-ce que c'était.
C'était une lettre taxée de toute façon, ok. D'accord.
Alors tu peux la retourner parce qu'il habite plus ici maintenant, c'est fini là.
Ça marche.
Voilà.
Et donc voilà, là on arrive dans un HLM.
Voilà
le HLM. Le HLM. C'est moi qui l'ai.
Oh, mais alors attention.
On est 3% de logements sociaux à Neuilly, avec une population sociale et un peu moins sociale des fois.
On voit, c'est beaucoup de noms portugais, maghrébins.
Bah, disons que là, ça ressemble plus à chez moi, dans le 18e. Et il y a une spécificité sur les boîtes aux lettres de Neuilly, souvent, bon, là c'est pas le cas dans un HLM, mais c'est que la plupart des boîtes aux lettres dans les quartiers, je dirais, lambda, en général, t'as beaucoup de boîtes aux lettres dans les immeubles avec un nom par boîte aux lettres. Mmh. Et ici, t'as une spécificité, c'est que d'abord t'as un peu moins de boîtes aux lettres, parce qu'en fait t'as un peu moins d'habitants par immeuble.
C'est-à-dire que c'est plus des grands apparts.
Plus des grands apparts, et t'as même plusieurs boîtes aux lettres pour le même nom, parce que, par exemple, dans une même famille, ils ont chacun un étage, ou...
Ah bon?
Ça faisait partie des découvertes quand je suis arrivé à Neuilly. Au niveau du boulot, c'est un peu particulier, donc faut pas se planter dans les prénoms. Voilà. Alors là, c'est un habitant du HLM.
Monsieur, bonjour.
c'était bien un HLM en tant que tel, le logement.
Il appartient à la mairie, la moitié à la mairie, la moitié...
Ah ouais, c'est mixte.
D'accord. Voilà.
Donc c'est le HLM, c'est un des rares HLM de Neuilly.
Ouais. Une partie des privilégiés qui...
Si vous voulez, ça n'existe pas les HLM ici. Parce qu'il y a celui-là, il y a celui-là à côté de... Avenue du Roule.
Oui. Avenue du Roule, c'est le complexe Sainte-Anne.
Oui, mais va voir.
Et il fallait attendre combien de temps pour l'avoir celui-là?
Bah, si je vous dis, moi, on attendait 15 ans. On a fait donc parce qu'il n'y en a pas d'HLM à l'époque, il n'y en a pas. Mais maintenant, il n'y en a pas. On dit il y en a, mais il n'y en a pas.
Parce que si on pense à Neuilly, on pense à... Forcément, vous êtes riche.
Bah oui. Ici, ils croyaient c'est des princes.
Ah bon?
Bah oui. On résiste deux minutes devant vous, tu vas voir les klaxons.
Ah oui, si on gêne le passage de voiture.
Vite fait. Vous ne cherchez pas à comprendre.
Hein. Ah, ils font sentir quand même.
Bah, on a senti, mais on n'a pas le choix. Formez votre goal, c'est tout. Ça veut dire, faut pas, on répond à personne, tu vois.
Donc c'est le pauvre Neuilly, il faut faire un peu profil bas.
Ah oui, c'est les petits, c'est, même si,
les petits,
même,
voilà.
Si le, même si il le dit pas, mais quand on croise quelqu'un, ou, ça se voit, hein. Même s'il le dit pas, mais ça se voit sur nos habits, hein. C'est riche ça.
Comment
si on achète un pantalon à 3 euros au marché de Barvilliers, ou... c'est pas pareil.
Une dernière question, pourquoi les riches alors ils viennent ici, entre eux, d'après vous?
Bah, c'est la vie, c'est comme ça. Même vous, vous êtes riche. Vous ne parlez pas avec nous là. Vous allez parler avec les autres qui sont comme vous. Ce sont des pognons, des belles voitures, des bels appartements. C'est normal.
Et Sarkozy alors?
Ah, je ne veux pas rentrer dans la politique. Vous connaissez la réponse.
Allez, ciao, bon courage.
Travail, famille, Sarkozy. C'est la compassion pour les nantis. Mais si t'as rien à offrir, prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Medef au fond d'un trou. Il a des planches et même des clous. D'intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue. Épouvantail aux mains tendues. Effrayer le salarié. Fermer ta gueule, pas bouger.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Il n'y a pas grand monde dans le train, il n'y a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains. On vise pas plus des images grises. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Et comment les soirées neuilliennes?
Les soirées neuilliennes, bah écoute, malheureusement, moi je ne suis plus dans le circuit parce que étant seul, c'est pas évident. Parce que là aussi, quand on est seul, on est moins invité. Oui, parce que, enfin, il faut que ça soit quand même assez ordonné. Vous savez, on a une table de 8, il faut quand même qu'il y ait 4 hommes et 4 femmes. Il y a encore des soirées, je crois, il y a encore des dîners, il y a encore des gens qui reçoivent, bien sûr. Les Neuilliens se retrouvent. Enfin, je pense que c'est parisien, ça. Les dîners, ça existe. Oh non, c'est pas possible. Elles sont extrêmement malades.
Je me fais grimper dessus, là, par les... Comment c'est quoi comme variété?
Jack Russell.
Jack Russell, là, qui en a sur mon épaule gauche et l'autre qui monte sur mes genoux.
Aïe. Oui, on appelle ça des kikis de concierge, c'est pas très joli.
Ils ont une promotion aussi, les chiens, là.
Tout à fait. C'est devenu une mode, il y en a beaucoup à Neuilly, c'est vrai. En fait, on en trouve énormément hors Neuilly, dans les concours épiques. quand vous allez voir des concours à Paris, enfin ou en province ou en France, il y en a énormément. Chacun son Jack Russell. Ça chasse le lézard, la souris, le rat.
Vous n'en avez pas trop, rassurez-moi, ici.
Non. Mais ce sont des chiens à tout faire. Et très convivial, on a l'impression qu'il leur manque que la parole, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup.
Après ça, on dira que La Basse J'y suis est une émission misérabiliste. Merci à Madame Dumont et à ses petits chiens. Merci à Madame Pascal, à Madame Lemoulec. Merci à Monique et Michel Pinson-Charlot. Je rappelle le titre de leur dernier ouvrage, Château et Châtelain, aux éditions Anne Carrière. Merci à Olivier Besancenot, à Monsieur Hassan, à Nicolas Beau, Nathalie Topaloff et Jean-Baptiste Rivoire. À signaler toujours le journal satirique panafricain qui paraît toutes les deux semaines et qui s'intitule Gris-Gris et que nous soutenons. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis. Et puis les repères, je m'attendais pas. Les repères de La Basse J'y suis. Le prochain, c'est La Pleine Lune à Montpellier. La Pleine Lune, c'est au 26 rue Faubourg Figuerolles à Montpellier. Et la première, c'est aujourd'hui, 24 octobre, à 20h. Pleine Lune, Montpellier. Et puis, il y en a un autre, demain, 25 octobre, à 20h, à Ploubalais. Entre Saint-Malo et Dinan, le Penalty, le bistrot s'appelle le Penalty et vous y retrouverez à 20h. Technique aujourd'hui, Patrick Henry et Jérôme Pavard, réalisation Antoine Chaoua et Yann Chouquet, assisté de Pascal Hop, Pascariello, le répondeur de La Basse J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et c'est Christophe Humbert qui s'en occupe. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermer@radiofrance.com. Réclame.